La presse hebdomadaire, elle revient sur la principale information de cette fin de semaine en France. Bonjour Joanne Burgel.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
Avec à la une des hebdos, mort pour la liberté d'enseigner.
C'est le titre en une du journal du dimanche qui publie la photo de Samuel Paty, ce professeur d'histoire, décapité vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet durant un cours sur la liberté d'expression. Le JDD nous dresse le portrait de l'enseignant de 47 ans, père d'un petit garçon de 5 ans. Tous ses élèves s'accordent à dire que c'était un prof sympa, pédagogue. Léna, une ancienne élève, raconte « C'était un prof très calme, attentif. J'avais eu des soucis de santé, il a toujours été compréhensif. » Lors d'un cours sur la Seconde Guerre mondiale, un élève avait tenu des propos antisémites, ajoute-t-elle. Il n'avait pas du tout été cassant, au contraire. Il avait su trouver les mots. En 2015, année de l'attentat de Charlie Hebdo, on avait pris beaucoup de temps pour en parler. Il avait eu une vraie démarche pédagogique, conclut Léna dans le JDD.
De son côté, le journal Aujourd'hui revient sur l'effroyable engrenage.
Le lundi 5 octobre, Samuel Paty, durant un cours sur la liberté d'expression avec ses élèves de 4e, montre deux caricatures du prophète Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Deux semaines plus tard, un Tchétchène de 18 ans qui ne le connaît pas s'est déplacé exprès d'Evreux pour l'assassiner, raconte Aujourd'hui. Sont entrés en scène un parent d'élève qui a lancé une polémique après ce cours et un agitateur islamiste qui a tenté d'instrumentaliser le débat. D'abord, le parent d'élève qui publie quelques jours plus tard un appel à la mobilisation contre l'enseignant sur Facebook. Cet homme de 48 ans est reçu par la principale et dénonce une offense d'un sacré. Dans une autre vidéo, il donnera le nom du professeur Samuel Paty. Dans ses démarches, il est accompagné par Abdelhakim Sefrioui, un personnage sulfureux, fiché S, nous dit Aujourd'hui. Ce dernier diffusera une vidéo appelant à la suspension de l'enseignant. Le terroriste aurait eu vent de la polémique à travers ses vidéos. Peut-on dès lors établir une complicité ou une responsabilité morale? Les deux hommes sont toujours actuellement en garde à vue.
Autre sujet dans la presse cette semaine, la présidentielle américaine du 3 novembre, les hebdos qui se penchent sur la personnalité de Joe Biden.
Pourquoi cet homme va vous surprendre? C'est toute la promesse de l'Express. S'il l'emporte, le candidat démocrate devra réconcilier une Amérique qui, dans son histoire, a rarement été aussi divisée, prévient l'Express dans son édito. Et la tâche s'annonce dantesque, tant la fracture laissée par Trump, le pyromane, est profonde. Joe Biden, initialement plutôt conservateur, est classé à droite du parti démocrate. Ce catholique pratique est devenu centriste. Il a assoupli certaines de ses positions, notamment sur l'avortement ou plus récemment sur le mariage pour tous. Et l'Express ajoute, Joe Biden a fait un travail de reconquête considérable auprès des femmes et des Afro-Américains. Peu mobilisé il y a 4 ans, sa colistière Kamala Harris fédère ses deux électorats.
Le duo Biden-Harris qui représente la dernière chance pour la démocratie.
C'est en tout cas le parti pris de l'Obs. Ce n'est pas une équipe de rêve, mais un tandem ambitieux qui porte les espoirs de ceux qui veulent empêcher Donald Trump de détruire la démocratie. Un duo improbable, un ticket bizarre quand on y réfléchit. L'Amérique démocrate mise le tapis sur un candidat qui a raté ses deux dernières campagnes présidentielles et une colistière qui a coulé à pic pendant les primaires. Mais c'est un tandem aidé par les circonstances, à savoir, nous dit l'Obs, le ratage sidérant de Trump face au coronavirus, tout comme l'économie en détresse. Les seniors, premières victimes du virus et électeurs actifs, n'apprécient pas l'incompétence de leur président.
La presse hebdomadaire française continue de suivre le conflit dans le Haut-Karabakh qui oppose l'Azerbaïdjan à des séparatistes soutenus par l'Arménie.
Le Point a rencontré des familles arméniennes endeuillées. Il nous propose un reportage au cimetière militaire d'Erablur à Yerevan. Le cercueil apparaît en haut des marches, une boîte pas très longue, pas très épaisse. En retrait, un soldat tient le portrait du défunt, c'est celui d'Ovanès, 19 ans, un appelé fauché 4 jours plus tôt par un obus dans le sud du Haut-Karabakh. On a récupéré son corps sans tête ni bras. Des mots durs pour montrer la réalité de la guerre. Le Point poursuit. Ainsi se succèdent les morts au cimetière militaire, une hécatombe dont on masque les chiffres, mais bien loin des quelques 300 victimes officiellement recensées par les autorités arméniennes. Un choc sanglant pour un bout de terre grand comme le Luxembourg.
Enfin, Marianne s'intéresse aussi au rôle de la Turquie dans ce conflit.
Le magazine choisit de mettre en une le visage du président turc Recep Tayyip Erdogan, les guerres qu'il provoque, les réseaux qui s'installent ici, le dirigeant turc qui s'ingénie à déstabiliser des régions proches ou éloignées de son aire naturelle. Selon le témoignage d'une habitante du Haut-Karabakh, des mercenaires syriens d'Erdogan sont entrés. Ils ont tué des civils et beaucoup de nos soldats. En 1922, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont déjà affrontés pour l'indépendance du Haut-Karabakh. Marianne qui ajoute, au nom de leur fraternité culturelle et linguistique, la Turquie qui soutenait déjà les revendications territoriales azéries, une implication turque régulièrement dénoncée par Yerevan.
Merci beaucoup, c'était Joanne Burgel pour la revue de presse.